France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Qu'est-ce que les Lumières ? C'est notre série de cette semaine. Aujourd'hui, nous évoquons les Lumières écossaises, leurs spécificités, leur manière de réfléchir aux émotions individuelles et à ce qui peut créer un sens commun. L'Écosse a été unie à l'Angleterre en 1707, mais elle a gardé des spécificités. Des traces de sa propre réforme protestante sous l'impulsion de John Knox au XVIe siècle, figure importante du presbytérianisme écossais, un système juridique ayant un lien au droit romain plus net que l'Angleterre, et puis des universités pleines de vitalité et d'originalité, avec des chaires spécialisées et une curiosité portant sur tout ce qui crée du lien social. À certains égards, les Lumières écossaises, dans le sillage du penseur Francis Hutcheson et battant son plein avec les figures de David Hume, de Adam Ferguson, de Adam Smith ou encore de Thomas Reed et de Lord Kaimes, préfigurent la démarche de la sociologie et de la sociologie américaine en particulier au XXe siècle, si attentive aux interactions entre les individus et aux émotions qu'elles abritent. Qu'est-ce qui nous unit ? Qu'est-ce qui nous permet de créer une société civile, expression qui de fait se développe au XVIIIe siècle ? Est-ce une affaire de passion ou de raison, ou des deux à la fois ? Les philosophes écossais réfléchissent à tout cela, à ce mélange d'intérêts communs, de sentiments de sympathie, de sens du devoir et, vous le verrez, d'autres ingrédients encore. Ils sont loin d'être d'accord entre eux, mais tous, à l'époque des Lumières, essaient de penser la société indépendamment de l'État, autrement dit à distance, des philosophies du contrat social qui, au même moment, triomphent ailleurs en Europe. C'est une de leurs spécificités. Bonjour Claire Etchegaray.
Bonjour Géraldine.
Je prononce bien comme ça ?
C'est parfait.
Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste de philosophie britannique. Et bonjour Claude Gauthier.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie à l'École normale supérieure de Lyon, spécialiste de philosophie politique et de l'empirisme britannique moderne. Tout cela passe assurément par l'Écosse du XVIIIe siècle. Les références de vos travaux, qui sont nombreux, sont précisées pour tous les deux sur le site de notre émission. Alors revenons pour commencer à cette expression « lumières écossaises ». Claire Etchegaray, historiquement, l'Écosse a-t-elle une vitalité particulière au XVIIIe siècle, peut-être même de nature économique ? Y a-t-il des conditions matérielles, dirait un marxiste doux, juste pour introduire cette dimension qui sont les conditions de la pensée, y a-t-il des conditions matérielles différentes qui expliquent la spécificité de la pensée des Écossais ?
Oui, alors merci pour cette question. C'est vrai que l'étiquette « Lumières écossaises » invite à interroger immédiatement l'homogénéité et éventuellement le caractère un peu imperméable, un peu fermé sur lui-même de ce mouvement. En fait, ce n'est absolument pas le cas. Hein. Donc, c'est un mouvement à l'intérieur qui est très divers. Et effectivement, l'unité, en fait, de ces différents penseurs que vous avez cités tout à l'heure, tient au fait d'une part que souvent, alors Hume était excepté, on y reviendra.
On fera droit à son exceptionnalité, je vous promets.
Souvent, ils enseignent dans les universités écossaises et donc effectivement, il y a des conditions en fait institutionnelles. Il faut bien comprendre que dans les universités écossaises, et c'est la différence avec ce qui se passe au XVIIe siècle, qui est dans les universités écossaises au XVIIe siècle, on a encore beaucoup de scolastiques. À partir de 1690, Descartes, Locke, Newton et les œuvres de philosophie expérimentale pénètrent dans les universités écossaises. On a même des travaux, des dissertations, c'est assez documenté, dès 1719-1720 sur Berkeley, sur Shrewsbury. Et donc, finalement, avec l'arrivée en particulier de Hutcheson, cet Irlandais, peut-être le plus écossais des Irlandais ou le plus irlandais des Écossais, cet Irlandais qui arrive à la chaire de philosophie morale de Glasgow en 1729, effectivement, donne le coup d'envoi, en fait, d'un projet de philosophie de l'homme qui soit fondé sur la philosophie expérimentale et en même temps qui fasse droit aux facultés humaines en tant qu'elles sont des faits de la constitution naturelle. C'est ça vraiment ce qui fait la spécificité de ces penseurs, c'est-à-dire ils appliquent la méthode expérimentale, donc ça, ils font attention, ils prêtent attention à nos expériences de jugement, de passion, etc. Mais ils essayent de les expliquer en reconduisant nos facultés à des faits de notre constitution naturelle. Donc ça, c'est ce qui fait l'unité. Et cette unité, effectivement, elle passe, mais à part des expériences, donc partagées. C'est pour ça que j'aime bien employer le terme de constellation, un petit peu comme le faisait Dieter Heinrich. Il y a effectivement un climat qui fait que, en fait, ce sont des expériences de vie ordinaire pour une noblesse, disons, modeste ou une haute bourgeoisie de l'Écosse du XVIIIe siècle. Donc, ce sont ces expériences-là qu'ils mobilisent. Mais, effectivement, de manière très différente pour chacun d'eux, et on va y revenir, parfois de manière même très conflictuelle, hein, puisque ils vont discuter pour terminer sur ces points-là, du scepticisme et de la possibilité d'une science, du rôle du plaisir et du déplaisir dans nos appréciations sociales et nos appréciations morales, de ce qui fait le sentiment d'obligation, de ce qui fait la puissance d'une nation ou d'un État. Sur tous ces points-là, il n'y a pas de consensus, en fait. Et donc, on a, donc, du point de vue de l'homogénéité, quelque chose qui est sans doute beaucoup plus divers que ce que l'étiquette pourrait le laisser supposer, et du point de vue du rapport aux autres, à l'extérieur de l'Écosse, là encore, il y a une plus grande porosité qu'on ne pourrait l'imaginer. J'ai parlé de Hutchison. De l'autre côté, à la fin, évidemment, par exemple, si on pense à William Hamilton, il y aura des liens avec l'Allemagne, des liens avec la France qui seront constitutifs de ce mouvement.
Claude Gauthier, vous êtes spécialiste de philosophie politique. Toutes les lumières européennes parlent de politique. La question de comment vivre ensemble, quel est notre avenir, un progrès est-il possible, une émancipation. Nous avons dans cette série évoqué dès le premier épisode le texte de Kant qui dit qu'il y a un mouvement global des Lumières qui exprimerait un désir de s'exprimer, clé d'ailleurs d'une réforme de la pensée. Hein, c'est en s'exprimant publiquement qu'on apprendra, en faisant un usage public de la raison, qu'on apprendra à penser notre condition, notre présent, à penser par nous-mêmes. En quoi plutôt, y a-t-il une spécificité des Écossais? Serait-ce le fait qu'ils ont un sens de l'ordinaire, de la vie ordinaire, la vie de tous les jours, qui les occuperait davantage que les autres lumières, les objets du quotidien, les petits sentiments, le rapport à son voisin? Est-ce que c'est ça qui fait leur spécificité? Ou bien finalement, c'est plus complexe?
Merci pour cette question. Je voudrais rebondir justement pour répondre à votre question sur ce que disait Claire. Il y a effectivement un point de ressemblance qui, sans doute, peut être trouvé du côté de la délimitation d'une nouvelle anthropologie de la nature humaine, malgré les distinctions et les différences qu'on peut faire quand on utilise une focale un peu plus fine. Mais il me semble quand même qu'il ne faut pas oublier un arrière-plan très important qui est celui, comme vous l'avez évoqué, de l'état d'union de l'Écosse avec l'Angleterre, qui définit malgré tout un champ ou un arrière-plan historique et politique extrêmement important. À ce point que il y a quand même une école qui se constitue dans cette période des Lumières, qu'on a appelée d'ailleurs l'école historique écossaise, où on retrouve des auteurs très importants pour les Lumières écossaises. Je pense à Smith, je pense à Hume aussi, qui est aussi un historien et pas simplement un philosophe. Et cette préoccupation, elle marque, me semble-t-il, un signe distinctif très important, qui est celui de comprendre de quelle manière les transformations économiques, les transformations juridiques, les transformations en termes de coutumes, qui caractérisent aussi l'Écosse de cette période ou de celle qui précède, influencent ou impactent en quelque sorte la manière de poser la question des libertés individuelles, de l'appartenance à la société, etc., etc. Donc je pense que ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'au fond, il y a à la fois élaboration progressive d'une anthropologie, je renvoie à ce que vient de dire Claire, mais il y a aussi une réflexion critique sur la place de la philosophie par rapport à d'autres disciplines pour comprendre ces transformations. Il s'agit aussi de comprendre ce qui se passe en Écosse et qui transforme l'Écosse.
Quoi ?
Précisément toute une série de transformations sur le plan de la propriété, sur le plan du régime politique, qui sont quand même des préoccupations présentes. À quoi il faut ajouter ce regard extérieur, mais tout à fait fondamental, à l'égard des événements qui ont bouleversé le XVIIe siècle, à savoir les guerres civiles et la Révolution anglaise. Donc tout ça constitue...
Mais qu'est-ce qui est spécifique dans le régime de la propriété, ce que vous appelez le régime politique au moment de l'Union, dans le mode de vie des Écossais, dans leur façon de faire de la politique et de faire du commerce et disons de la vie économique, qu'est-ce qui est particulier ?
Je ne pourrais pas dire s'il y a une spécificité. Je dis simplement qu'il y a une série de transformations qui appellent des réflexions et qui constituent une part importante des élaborations philosophiques et historiques de cette époque. Mmh. Et ça, je pense que c'est quand même intéressant, par exemple, de comparer la manière dont un Smith ou un Hume s'interrogent ou pensent la transformation, la révolution par rapport à ce qui se passe en Écosse. Mmh. Il y a quand même des insularités ou plus exactement des spécificités qui viennent quelque part, comment dirais-je, inquiéter au sens noble du terme, la manière de poser les questions classiques en philosophie. Et je pense que d'une certaine façon, on pourrait comprendre aussi à l'aune de ce contextualisme la manière de critiquer les théories du contrat.
Voilà, alors les théories du contrat, ce sont des théories qui essayent d'expliquer quelle est la source de l'État qui justifie en vérité la création de l'État pour garantir notre sécurité, Thomas Hobbes au XVIIe siècle, pour certes garantir un peu notre sécurité mais aussi pour protéger nos libertés fondamentales qui doivent toujours être reconnues par l'État, John Locke, fin du XVIIe siècle. Ce sont des auteurs anglais, ce sont des auteurs qui ont aussi une anthropologie, c'est le moins qu'on puisse dire. Hobbes est très pessimiste sur la nature humaine, il pense que nous sommes mus de manière nécessaire par nos instincts, de manière quasi mécanique. La notion de liberté est problématique chez Hobbes. Chez Locke, c'est très différent. Ma question, Claire Etchegaray, c'est ces Anglais-là du XVIIe, qui sont très lus au XVIIIe, ils ont déjà fait de l'anthropologie, c'est-à-dire ils ont une théorie de la nature humaine. Comment se fait-il que cette question soit remise sur la table, ainsi par les Écossais ? Est-ce pour leur répondre ?
Oui, alors c'est toujours très difficile de savoir ce qui déclenche ou non une lecture critique. Assurément, ce que vient de dire Claude et ce que vous venez de rappeler, c'est que se noue différemment chez ces penseurs anthropologie et critique, et se noue différemment. Peut-être qu'on peut y venir, notamment, sans doute, parce que la place ou le rapport entre raison et passion n'est plus tout à fait le même, en tous les cas, de la part de ces penseurs écossais. Il y a l'idée que la façon dont Locke, Hobbes ou d'autres ont pensé ce rapport, précisément, manque d'une certaine manière, eh bien, ce qui est le plus un point fondamental, en tous les cas, dans anthropologique fondamental, dans la nature humaine,
à quelque chose de nœud passion.
Alors, pour en venir tout de suite aux questions politiques, mais en réalité, il y a aussi des questions de philosophie morale plus générales qui sont impliquées. Mais juste pour donner cet exemple, puisqu'on en a parlé à l'instant, effectivement, chez Hume, par exemple, la façon dont on va penser la convention à l'origine des règles de justice et donc de l'État ne peut plus être sur le mode d'un contrat, effectivement, ou d'une ou d'un engagement, d'une promesse qui se ferait par décision. Voilà.
Et donc, le concept de société civile, qui est un sujet qui vous a beaucoup intéressé dans vos travaux, Claude Gauthier, elle a travaillé par les Écossais dans son autonomie, en quelque sorte. Oui. Justement, en dehors du problème de la fondation de l'État qui occupait tant Thomas Hobbes et John Locke au XVIIe siècle.
Oui, ce qui est important de dire, c'est qu'il y a un travail qui est assez important autour d'une pensée de l'autonomie de l'espace de la société civile. Mm-hmm. La société civile, si l'État est remis en cause, ne disparaît pas pour autant. Et de ce point de vue-là, c'est une différence très significative avec la fin du second traité sur le gouvernement civil.
De Locke. Locke 1690.
Et élabore progressivement toute une série de situations pour tenter d'imaginer ou tenter d'élaborer une forme d'indépendance de la communauté vis-à-vis de la remise en cause du gouvernement. Cette question, elle est reprise, elle est posée comme un quasi prérequis. Mm-hmm. Et ça, c'est une dimension extrêmement importante de la question. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Hume dira que la relation au souverain est indépendante de la promesse ou du contrat. Donc il y a plusieurs niveaux de critique de la théorie du contrat chez Hume, mais celle-ci est très importante parce que précisément, il va fonder en quelque sorte la solidité ou la consistance du lien social sur des dispositions, sur des habitudes, sur des traditions, et non pas simplement sur ce moment spécifique qui est un moment rationnel, qui serait celui de la décision volontaire de s'associer. Donc là, il y a une dimension qui est extrêmement importante parce que c'est une ouverture possible à une pensée complètement différente de ce que c'est que la société civile, qui l'introduit en quelque sorte dans une forme d'historicité. Et c'est, pour revenir un instant sur ce que je disais tout à l'heure, on voit bien que chez certains philosophes des Lumières, la question du rapport entre la philosophie et l'histoire est aussi une singularité ou une spécificité de ces Lumières.
Et elle est particulièrement creusée par les Écossais.
Elle est particulièrement visible et importante sur les questions politiques, et notamment sur la question du rapport entre le gouvernement et la société, oui.
Alors, nous allons commencer cette analyse des Lumières écossaises par un texte de David Hume. David Hume qui, vous nous expliquerez cela en détail, est en vérité assez exceptionnel, assez différent des autres Écossais, mais qui est une référence majeure. Il publie assez jeune un traité de la nature humaine en 1739. Il est extrêmement déçu de voir que personne ne le remarque. Il a parfaitement raison, c'est un livre génial, qu'on a mis vraiment longtemps à connaître, à comprendre. Il le réécrira sous plusieurs formes d'ailleurs pour qu'il soit plus accessible, et puis il fera plein d'autres choses. Nous allons revenir à sa biographie. Mais ce qui est intéressant dans le texte que vous allez entendre, donc du traité de la nature humaine de 1739, c'est le lien entre raison et passion, la manière dont il pose le problème. Écoutez.
Rien n'est plus ordinaire en philosophie, et même dans la vie courante, que de parler du combat de la passion et de la raison, de donner la préférence à la raison et d'affirmer que les hommes ne sont vertueux que pour autant qu'ils se conforment à ce qu'elle leur ordonne. Toute créature raisonnable, dit-on, est obligée de régler ses actions par la raison. Et si quelque autre motif ou principe disputait la direction de sa conduite, elle devrait s'y opposer jusqu'à le soumettre complètement, ou du moins le mettre en conformité avec ce principe supérieur. La plus grande partie de la philosophie morale, ancienne ou moderne, semble se fonder sur cette façon de penser. Et il n'est pas de terrain plus ample, tant pour l'argumentation métaphysique que pour les déclamations populaires, que la prééminence supposée de la raison sur la passion. Pour avantager la première, on a fait étalage de son éternité, de son immutabilité, de son origine divine, et l'on a insisté avec la même force sur l'aveuglement, l'inconstance, la puissance trompeuse de l'autre. Pour manifester la fausseté de toute cette philosophie, je chercherai à prouver d'abord que la raison ne peut jamais être à elle seule un motif pour une action de la volonté. Puis en second lieu, qu'elle ne peut jamais s'opposer à la passion pour diriger la volonté.
Bref, nous ne maîtrisons pas grand-chose avec notre volonté et avec notre raison qui fixe des principes. Les passions ont une certaine part d'autonomie. Claude Gauthier, ça c'est Jung qui le dit. Alors évidemment, pour comprendre ce point, il faut rappeler, me semble-t-il, que Hume est un grand sceptique. Nous avons fait une série sur David Hume il y a quelque temps. Je renvoie les auditeurs, c'est un génie. Hein. Enfin, moi, je tiens vraiment Hume pour un auteur tout à fait majeur. Il sait bien qu'en étant sceptique sur tout, c'est-à-dire en pensant qu'on ne peut jamais rien connaître, on ne peut pas vivre. Il faut bien donc que dans le quotidien, nous ayons en quelque sorte des croyances provisoires. Il appelle ça un scepticisme mitigé, avec une part d'incertitude, non dogmatique, mais l'habitude nous fait faire des choses parce que ces choses-là ont marché jusqu'ici. Simplement, la fibre sceptique demeure chez Hume. Claude Gauthier, vous pensez que c'est cela qui explique que dès qu'il faut parler de la raison, il lui tape sur le nez ?
Alors, je pense que c'est une question assez compliquée. Il me semble qu'il faudrait distinguer différents niveaux de scepticisme. Il y a le plan épistémologique et très manifestement ici dans ce texte, ce qui importe, c'est quand même quelque chose qui concerne la vie de tous les jours, l'activité au quotidien. Et il y a effectivement une remise en cause de l'opérativité de la volonté. Il va même jusqu'à dire que la volonté est une passion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une critique radicale de la volonté comme faculté et que de ce point de vue-là aussi, il se démarque par rapport à toute une tradition ou à tout un ensemble de traditions philosophiques. Ce qui est intéressant ici, me semble-t-il, c'est qu'effectivement ce texte nous permet de comprendre un peu de quelle façon il s'agit de délimiter les contours de cette anthropologie. Mmh. Et ce qui est caractéristique, me semble-t-il, en tout cas de quelques-uns de ces auteurs des Lumières, c'est qu'ils réinterrogent la place et le pouvoir de la raison. Il ne s'agit pas de remettre en cause l'effectivité de la raison, il s'agit d'en évaluer plus précisément la possibilité et la capacité.
Et donc ce n'est pas vraiment le triomphe d'un rationnel. On a tendance parfois à dire que les Lumières, c'est vraiment le triomphe ultime de la raison en Occident. Et là, on se trompe. Hein.
Oui, mais c'est aussi une manière de redonner une certaine opérativité à la raison, à condition de tenir en compte, de prendre en considération les rapports qu'elle peut avoir avec l'affectivité, la sensibilité. Et ce qui est intéressant ici, c'est ça, c'est que il faudrait rentrer dans le détail de l'analyse, c'est pas le lieu, mais de comprendre que finalement, pour que la raison puisse être opérante, il y faut des conditions, il faut des situations, oui. Il faut des circonstances. Mais Hume ne dit pas que la raison ne sert à rien. Ouais. Jamais. Il dit simplement qu'il faut comprendre que sa capacité à orienter la passion, elle est tributaire de circonstances. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on peut considérer que, et je pense que de ce point de vue, on pourrait mettre exactement aussi sur le même plan Smith, cette moralité ou cette dimension morale de la conduite est liée aux circonstances dans lesquelles l'action ou l'activité se déploie.
Donc, nous pouvons apprendre de l'expérience. Ça ne produira peut-être pas de certitude absolue, mais nous pouvons apprendre d'elle, et nous ferions bien d'ailleurs, car nous n'avons pas vraiment d'autre boussole. Claire Etchegaray, ce qui est troublant, c'est que Hume est la référence de tout le monde dans les Lumières écossaises, et en même temps, tout le monde a envie de lui répondre et de dire mieux que lui, plus que lui, voir des choses contre lui. Donc ça, c'est un peu complexe. Hume est la référence, mais celui qu'on voudrait dépasser.
Oui, pour nous, Français, on a souvent l'impression, on a longtemps, Hume était la figure des Lumières écossaises. Mais en un sens, on peut se demander si ce n'est pas le trublion des Lumières écossaises. Mmh. Assurément, Thomas Reed, mais même en un sens, Adam Smith est en discussion, on y reviendra sans doute avec Hume, et Lord Kames, hein, qui était son propre cousin, Henry Hume, mais qui s'écrit Home. Tous ces penseurs, donc, effectivement, discutent, critiquent parfois Hume. Alors, ici, qu'est-ce qui est radical ? On le voit bien. Il faut d'abord préciser qu'il s'agit de la raison, en un sens strict. Parfois, Hume, Smith, Smith parleront de la raison en un sens que Hume dira dans la dissertation sur les passions, populaire. Ici, c'est en un sens strict, le sens exactement dont vous parliez à l'instant, c'est-à-dire, à partir de l'expérience, établir des faits. Donc, ce que nous dit Hume ici, c'est que pour avoir une vie bonne, éthique, heureuse, mais également vertueuse, la raison est impuissante à contrôler nos passions, puisque comme la volonté en fait se réduit, comme le disait Claude, à nos passions, ça, de ce point de vue-là, c'est pas très original, c'est ce que disait aussi bien Hobbes, par exemple, la volonté, ce ne sont que des désirs, très bien, mais le problème, c'est que le contrôle de ces désirs, et Hume ne nie pas que des désirs incontrôlés, que des désirs violents, que des désirs qu'on pourrait nommer en un sens populaire déraisonnables, feraient notre malheur ou seraient en un sens vicieux. Simplement, ce qu'il dit, c'est que la raison sera impuissante à contrôler ses désirs. Et donc, là, il y a deux types de cibles. Il vise manifestement un ensemble de penseurs quand il dit toute cette philosophie. Et donc, c'est ce qu'on pourrait appeler un rationalisme au sens général ou en sens lâche. Et ça, c'est un rationalisme qu'on trouve depuis l'Antiquité aux yeux des Lumières. Hein. En un sens, Aristote et l'idée que l'homme prudent suit la règle de la juste mesure, mais que cette règle-là, c'est une règle qu'on pourrait appeler la règle de la droite raison. En un sens, les stoïciens qui nous disent qu'effectivement, il y a des types de passions qui sont rationnelles, comme par exemple la précaution, qui sont conformes à notre nature rationnelle, et d'autres passions qui sont absolument irrationnelles ou déraisonnables, mais tous, la crainte qui, elle, est une perturbation qui est violente, c'est-à-dire contre nature et contre la raison. Ça, c'est un rationalisme au sens général qui est manifestement battu en brèche par ce texte. Mais c'est aussi un rationalisme plus étroit que Hume a en tête. C'est pour ça qu'il parle de la raison immuable, éternelle. Alors, effectivement, les théologiens, par exemple, parlaient d'une sindérèse, hein, qui disait que dans notre âme, il y avait une petite étincelle qui fait qu'on tient au feu divin et qui nous fait agir vertueusement. On reviendra sur cette idée d'étincelle peut-être tout à l'heure. Mais en un sens plus strict, Hume vise, par exemple, quelqu'un comme Samuel Clarke, ou d'autres auteurs moins connus encore, qui disent tout simplement que la morale, eh bien qu'il y a des vérités morales et que ces vérités morales résident dans le rapport qu'on peut faire nécessaire et universel entre des idées. Donc, par exemple, entre l'idée de punir un innocent et l'idée de nature humaine, eh bien, il y a une disconvenance qui fait que l'on voit bien que il n'est pas moral, donc, de punir un innocent. Ça, c'est ce rationalisme-là aussi que Hume a en tête. Et en particulier, il développe un certain nombre d'arguments sur lesquels on peut venir pour montrer que ça ne fonctionne pas, ça ne permet pas, en fait, d'agir vertueusement, et ça n'influence pas non plus nos appréciations morales.
Bon, alors c'est quand même pas très fort tout ce qu'on peut créer. On apprend de l'expérience, on peut faire bouger un peu les choses, mais chez Hume, il y a une énorme prudence que vous venez d'évoquer sur ce que vraiment nous savons et sur ce que vraiment nous pouvons. Il est par ailleurs, Claude Gauthier, tout à fait singulier, parce que justement, il n'est pas à l'université. Or, les Lumières écossaises se sont développées dans les universités. David Hume est devenu, faute d'avoir obtenu un poste universitaire, bibliothécaire du corps des avocats d'Édimbourg, donc un bibliothécaire fameux, hyper cultivé, et d'ailleurs, il a écrit une histoire d'Angleterre il y a de nombreux volumes. Et puis après, dans une deuxième période de sa vie, il a été secrétaire d'ambassade à Paris, puis secrétaire d'État à Londres. Hume est hors norme, Claude Gauthier. Est-ce aussi pour cela que tout le monde reçoit son œuvre en se disant, bon, il faut construire avec lui, mais par-delà lui?
Alors, ce qui est sûr, c'est que Hume a une position très singulière dans cette constellation, pour reprendre le mot de Claire. Parce que d'abord, il ne fait pas de carrière à l'université. Il ne fait pas de carrière à l'université en raison, notamment, de ses rapports avec la religion instituée. Et d'une certaine manière, je crois que la rencontre avec l'histoire, puisqu'il va effectivement consacrer le temps libre qu'il aura à la bibliothèque des avocats, à rédiger cette fameuse histoire d'Angleterre, elle est déjà en germe, si je puis dire, permettez-moi la prolepse, dans tout le travail qu'il fait de réécriture du traité de la nature humaine, qui est un travail assez intéressant parce que précisément il change de style. Et là, on touche aussi une singularité peut-être des Lumières écossaises, c'est-à-dire que l'écriture par essai devient un mode d'élaboration philosophique qui l'ouvre vers des sphères de conversation. Donc il y a une dimension publique, entre guillemets, il tire d'une certaine façon un peu les conséquences de ce qu'il appelle l'échec du traité de la nature humaine, qui va connaître une postérité bien plus importante après sa mort. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on a affaire à un parcours à la fois, je dirais, social et intellectuel très particulier.
Je vous propose qu'on aborde maintenant Adam Smith, auteur en 1759 d'une théorie des sentiments moraux. Nous ne parlerons pas énormément de son œuvre d'économiste, mais elle est souvent plus connue. Dans la théorie des sentiments moraux, Smith, qui connaît Hume, souhaite dire que dans les interactions, pardon, j'emploie un mot tout à fait anachronique pour cette époque, les interactions avec les autres, nous évoluons en matière de sentiments, nous ne sommes pas seulement guidés par le calcul et l'intérêt, il y a une capacité d'empathie, il appelle cela la sympathie. Puis-je vous demander de préciser cette notion avant que nous entrions dans des concepts importants d'Adam Smith qu'il va développer à partir de ses considérations sur la sympathie. Je vous écoute, Claire.
Alors là, sur la sympathie, c'est typiquement le cas où Hume est à la fois un inspirateur et quelqu'un, un ami, hein, parce que Hume et Smith sont très très amis, va être discuté. Donc la notion de sympathie est... elle n'est pas inventée par Hume, parce que là, pour le coup, c'est un terme qu'on trouve chez les Lumières, y compris françaises. Hein. Cette imitation de sentiments, disent les Lumières françaises. Hume parle, dans une lettre, notamment à Smith, d'une idée réfléchie. Comment ça? C'est l'idée que, en présence des signes émotifs de quelqu'un, les pleurs, un sourire, je me fais l'idée de sa passion. Et cette idée de la passion de cette personne est en moi si vive qu'elle devient le sentiment lui-même. Donc pour Hume, la sympathie, hein, c'est ce qu'il appelle aussi une infusion, d'une certaine manière, de sentiment, où ce processus par lequel mon sentiment réfléchit en présence le sentiment d'un autre. Or, Smith... d'une certaine manière, reprend cette idée-là, mais l'élargit considérablement. Alors, un petit peu en creusant sur des points que Hume avait déjà un petit peu présentés à propos de la pitié. Hume avait dit notamment, on peut avoir de la pitié pour des gens, même en présence de quelqu'un qui ne ressent pas, par exemple, la honte, alors qu'il a un comportement embarrassant. Et pourtant, on a honte pour lui, d'une certaine manière. Donc Hume avait déjà un petit peu laissé des petits indices que Smith, pour le coup, creuse. Et pour lui, désormais, la sympathie, elle est plutôt, comme le dira Vanessa Nurock, situationnelle et non pas liée à la présence d'une émotion. En d'autres termes, c'est parce qu'on se représente la situation, qu'on sympathise avec l'émotion qu'aurait pu avoir la personne.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman.
Qu'est-ce que les Lumières ? C'est notre question cette semaine dans Avec Philosophie. Et aujourd'hui, nous parlons des Lumières écossaises qui ont de vraies spécificités, notamment un intérêt très fort pour les rapports entre passion et raison, et puis pour les sentiments de tous les jours qui ont un sens politique fort, en particulier la sympathie. Et nous venons d'aborder ce thème chez Adam Smith, auteur en 1754 d'une théorie des sentiments moraux. La sympathie, cependant, pour Smith, est conditionnée par certaines situations, elle n'est pas toujours là, elle est peut-être même assez fragile en vérité, loin des yeux, loin du cœur, dit l'expression, et bien finalement, nul ne l'a mieux expliqué qu'Adam Smith. Écoutez cet extrait maintenant de sa théorie des sentiments moraux.
Supposons que le grand empire de la Chine, avec ses myriades d'habitants, soit soudain englouti par un tremblement de terre. Et voyons comment, en Europe, un homme doté d'humanité, qui n'a aucune sorte de rapport avec cette partie du monde, serait affecté en apprenant la nouvelle de cette atroce calamité. D'abord, il exprimerait très fortement, j'imagine, son chagrin pour l'infortune de ce peuple malheureux. Il ferait de nombreuses réflexions mélancoliques sur la précarité de la vie humaine et sur la vanité de tous les travaux des hommes, qui peuvent ainsi être anéantis en un instant. Il raisonnerait aussi, peut-être, s'il est un esprit spéculatif, sur les effets que ce désastre pourrait produire sur le commerce en Europe et sur le négoce et les affaires du monde en général. Et une fois toute cette belle philosophie terminée, une fois tous ces sentiments d'humanité convenablement exprimés, notre homme retournerait à ses affaires ou à son plaisir, se reposerait ou se divertirait avec le même bien-être et la même tranquillité que si rien n'était arrivé. L'accident le plus frivole qui puisse lui arriver occasionnerait en lui un trouble plus réel. S'il devait perdre son petit doigt demain, il n'en dormirait pas la nuit, mais il ronflerait avec le plus profond sentiment de sécurité malgré la ruine de 100 millions de ses frères, pourvu qu'il ne les ait jamais vus. Et la destruction de cette foule immense semblerait l'intéresser moins que sa dérisoire infortune.
Notre empathie, notre capacité d'empathie, de sympathie, dit Smith, dépend donc de la proximité, de cette chose qui est censée suggérer, stimuler de la sympathie. C'est fragile, hein, les sentiments humains. Ça dépend de plein de choses, Claude Gauthier. Comment on peut construire quelque chose de solide sur ça ?
Alors, peut-être quelques précisions malgré tout. Je crois que la sympathie, effectivement, ce qui est intéressant dans la manière dont se fait le passage de Hume à Smith, c'est qu'elle acquiert de façon beaucoup plus explicite une dimension cognitive. C'est-à-dire que Smith le dit dès le premier chapitre de la théorie des sentiments moraux. On sympathise beaucoup plus volontiers lorsqu'on connaît les causes, c'est-à-dire les éléments de la situation, pour reprendre le vocabulaire de Vanessa, qui déclenchent l'affection que l'on observe, que l'on regarde, et avec lesquelles on va, par imitation, éprouver quelque chose. Alors ça, c'est le premier point, et je pense qu'effectivement, ce que souligne le texte qui vient d'être lu, c'est l'importance de la distance comme facteur qui influence considérablement notre aptitude à sympathiser. Plus la distance est grande et plus la capacité à sympathiser a besoin d'autres éléments pour pouvoir jouer. Et l'exemple qui est ici choisi est typiquement caractéristique de la façon dont on pense la sympathie en rapport avec quelque chose qui définit notre nature, à savoir, comme encore une fois, pour utiliser le vocabulaire de Hume, notre partialité naturelle. Et donc, cette capacité à éprouver des sentiments, à éprouver de manière réfléchie des sentiments qui sont éprouvés par les personnes que nous observons, elle est tributaire de la distance. Donc effectivement, ici, on a une variable, si je puis dire, tout à fait déterminante du schéma à partir desquels les êtres humains peuvent éprouver de la sympathie. Alors juste en passant, en entendant ce texte, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à un texte très contemporain, pour le coup, de Luc Boltanski, qui s'appelle Souffrance à distance.
La souffrir à distance.
Où il reprend une lecture de Smith et où il fait précisément de cette variable de la distance un angle de lecture et d'interprétation des nouvelles conditions dans lesquelles on est amené à éprouver quelque chose.
Il fait toute une analyse de...
Donc là, il y a une forme de postérité. Il y a une forme de postérité. Et évidemment, ce texte est tout à fait fondamental pour comprendre. Peut-être une dernière précision qui me paraît importante, c'est que ce mouvement de sympathie ne va pas jusqu'à l'empathie, précisément parce que il ne peut pas y avoir confusion entre ego et autrui. Ce qui est intéressant dans la description des mouvements de la sympathie chez Smith, c'est qu'il dit « je me mets à la place ». Dans une certaine mesure. Mais je ne peux pas fusionner.
Et donc c'est important de ne pas dire empathie, il faut dire sympathie.
Et l'exemple qu'il prend au tout début du traité de la théorie des sentiments moraux, c'est celui qui est torturé. Et je vais effectivement, en quelque sorte, sympathiser avec sa souffrance, avec sa douleur. Donc je me mets à sa place dans une certaine mesure, mais je ne suis pas celui qui souffre effectivement. Et cette distinction, elle est extrêmement importante si on veut comprendre toute la force et toute l'originalité de la lecture smithienne de cette sympathie.
Et dans la jeunesse, quelles sont les
distinctions morales. Pardon ?
Quelles sont les conséquences de cette analyse sur la notion de société civile ? Est-ce que ça signifie que c'est toujours ici et maintenant ? Que ça se joue, que au fond c'est la communauté ici et maintenant, proche, chacun est proche de l'autre, que Smith nous dit de penser, parce que n'imaginons pas que nous sommes naturellement et vraiment ce qu'aujourd'hui on appelle des citoyens du monde, etc.
Alors, ce qui est sûr, c'est que dans la théorie des sentiments moraux, il y a un travail tout à fait considérable de description pour comprendre de quelle manière adviennent par l'interaction les distinctions morales. Donc, c'est vraiment, de ce point de vue-là, un texte absolument remarquable, parce que on renonce à l'optique rationaliste qu'évoquait tout à l'heure Claire, à savoir que ces distinctions, elles sont posées par la raison de manière a priori. Elles sont reconstruites, et elles sont reconstruites dans la relation sociale, dans l'interaction, dans le jeu spéculaire du moi et d'autrui. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on a affaire à une lecture qui, pour reprendre une remarque que vous avez faite au tout début, préfigure assez bien ce qu'on pourrait appeler une forme de sociologie des relations humaines. Voilà. Donc de ce point de vue-là, le passage du local, en quelque sorte, à quelque chose de plus général est sans doute plus complexe. Mais en tout cas, là, il y a d'abord cet effort considérable de description quasi entomologique de la manière dont, finalement, advient l'objectivité du jugement moral dans cette forme d'interaction. Sympathique.
Lorsque la sympathie est là, alors vous me direz si c'est uniquement dans ce cas-là ou si c'est encore plus complexe que cela, mais en tout cas quand elle est là, Smith semble nous dire que se met en place des petites injonctions intérieures, quelque chose comme un sens du devoir. Et là se crée la moralité. Alors, comment ça marche? Qu'est-ce que c'est que ce personnage intérieur qui se forge et qui nous dit que nous devons nous comporter bien? Est-ce que ça arrive plus largement que dans les cas de sympathie, plus souvent? Je vous poserai cette question, non sans avoir entendu avec vous cet extrait, cet autre extrait, qui suit de peu d'ailleurs le précédent, de la théorie des sentiments moraux de Smith, 1759.
Quand nous sommes toujours plus affectés par ce qui nous concerne que par ce qui concerne les autres, qu'est-ce qui pousse toujours l'homme généreux, et souvent l'homme mesquin, à sacrifier ses propres intérêts aux intérêts les plus grands des autres? Ce n'est pas le doux pouvoir de l'humanité, ce n'est pas cette faible étincelle de bienveillance que la nature a allumée dans le cœur humain, qui est ainsi capable de contrecarrer les plus fortes impulsions de l'amour de soi. C'est un pouvoir plus fort, un motif plus puissant qui s'exerce en de telles occasions. Il s'agit de la raison, des principes, de la conscience de celui qui réside au-dedans du cœur, de l'homme intérieur, du grand juge et arbitre de notre conduite. C'est lui qui, chaque fois que nous sommes sur le point d'affecter le bonheur des autres, nous dit, d'une voix capable de stupéfier la plus présomptueuse de nos passions, que nous ne sommes qu'un parmi la multitude, et que nous ne valons en aucune mesure mieux que les autres. Que lorsque nous nous préférons si honteusement et si aveuglément aux autres, nous devenons l'objet convenable du ressentiment, de l'horreur et de l'exécration. C'est de lui seulement que nous apprenons la réelle petitesse de ce que nous sommes, nous et tout ce qui s'y rapporte. Les illusions naturelles de l'amour de soi ne peuvent être corrigées que par l'œil de ce spectateur impartial.
Le spectateur impartial, c'est un personnage intérieur, en quelque sorte, qui se forge et qui nous dit de nous comporter moralement. Comment advient-il? Comment naît-il, Claire Etchegaray, selon Adam Smith, puisque c'est de lui que nous parlons parmi les Lumières écossaises?
C'est cela, et d'une certaine manière, c'est la spécificité de Smith par rapport à Hume. C'est la solution de Smith à un problème que Hume avait posé à la suite du texte, dans la lignée du texte, du premier texte qu'on avait lu, hein, puisque Smith, donc on redonne le contexte qui a été fixé dans le texte précédent, à savoir quelqu'un qui entend parler, mettons, d'un tremblement de terre en Chine, et qui pourrait dire quelque chose que Hume avait dit lui-même. Il n'est pas contraire à la raison de préférer la destruction du monde entier à une égratignure de mon doigt. Et par là, Hume voulait dire la raison elle-même, donc, ne pourra rien en morale. Elle ne pourra pas vous faire préférer le bien des autres lorsque vous avez des petits malheurs qui concentrent toute votre attention. Alors, comment faire pour que des désirs calme, puisque ce sens populaire de la raison, c'est le calme des passions. Ça, c'est quelque chose qui est retenu de la métriopathie des anciens. Les passions calmes, c'est bien ce qui nous fait avoir une vie bonne. Mais comment faire pour qu'elles prévalent sur les désirs les plus impétueux, les plus violents, l'impulsion de l'amour de soi? Eh bien, autant Hume compter sur une culture des dispositions passionnelles, à force d'avoir des passions calmes, on est plus enclin à avoir des réactions plus douces. Autant Smith montre comment effectivement nos expériences de sympathie, comment la projection dans les situations des autres nous permet peu à peu de tenter de comprendre en quoi un spectateur impartial pourrait ou non sympathiser avec nos propres émotions. Et donc, on forge ainsi ce qu'ils appellent, comme vous le disiez, l'homme du dedans, un point de vue, un tribunal intérieur. Et donc, là, il faut vraiment se rappeler que Kant lira ces textes de près. Kant, dont Marcus Hertz dira que son favori, c'était Adam Smith. Kant qui dira dans la doctrine de la vertu, on ne peut pas être jugé parti. Et donc, on forge effectivement un point de vue pour évaluer la moralité de nos actions. Eh bien, Smith, effectivement, dit, alors, pas en 1759, dans une édition ultérieure, il retravaille son texte et il affirme que on ne peut pas être jugé parti, et donc l'imagination, la capacité de représentation, forge cette idée d'un point de vue impartial qui permettrait effectivement, alors dans le texte que nous avons lu, qui prend le nom de raison, principe, conscience, cette fois c'est en un sens très commun, très ordinaire, d'homme de principe, de la raison au sens populaire, effectivement, d'agir raisonnablement, de la conscience morale comme de la voix. De cette raison, de la voie de ce qui est raisonnable, très bien. Et donc, on se forge cette idée-là comme un standard idéal de correction par rapport à nos préférences biaisées par, effectivement, la distance, la proximité qu'on peut avoir avec les gens, etc.
Est-ce que c'est une instance rationnelle, le spectateur partial, ou c'est l'imagination, Claude Gauthier, ou... Parce que quand vous dites, Claire Etchegaray, que Kant aura lu Smith, mais Kant, certes, mais il en fera tout autre Exactement. Chose. Il en fera un impératif catégorique de la raison. Et d'ailleurs, je précise à nos auditeurs que nous proposons la semaine prochaine une série sur la morale morale selon Kant. Donc, ce n'est pas la même chose. Cela signifie-t-il, Claude Gauthier, que pour Smith, c'est une image que nous forgeons avec des sentiments, avec de l'imagination, et certainement pas seulement avec la raison ?
Je pense que c'est une question extrêmement compliquée dans la théorie des sentiments moraux. Ce passage, et il répond à un problème qui est tout à fait considérable, qui est celui que on ne peut pas confondre les critères de la morale sociale, ou de la morale du sens commun, avec ce qu'on pourrait appeler une morale parfaite. En fait, ce passage de la constitution du spectateur impartial lui permet de résoudre une difficulté fondamentale qui consiste à la fois à proposer les principes d'une genèse sociale des critères de nos distinctions morales et d'un usage qui ne soit pas simplement social de ces mêmes critères. Et d'une certaine manière, cette autonomisation intérieure du personnage, du spectateur, va jouer ce rôle-là. Il y a comme une sorte, me semble-t-il, mais ça c'est une question qui demanderait d'autres développements, il me semble qu'il y a une sorte de rupture entre ce que j'appellerais la morale sociale du sens commun, à partir de quoi émergent les premiers critères de la description et de la discussion de la conduite individuelle, et ce qu'on peut appeler effectivement la morale parfaite, et c'est vraiment ça qui va intéresser Kant. Là, de ce
vous
point
pensez...
de vue-là, c'est parfaitement
oui,
évident.
Ça, oui.
Il y a une rupture
oui.
par rapport à Hume aussi, sur ce plan-là. Voilà.
Et vous ne pensez pas plutôt que ce spectateur impartial évoque un peu le surmoi de Freud, dont Freud dit lui-même qu'il est d'origine sociale, c'est-à-dire c'est dans la famille, les choses interdites, c'est d'abord le parent qui incarne, puis c'est la société. D'ailleurs, il dit aussi que c'est pas parce qu'on a une éducation très stricte qu'on aura un surmoi très fort, parfois. C'est très complexe, ça.
C'est
ça
une possibilité, c'est une lecture possible. Après, si on essaye de se resituer dans le mouvement de ces théories morale, il me semble que c'est peut-être donner une signification qui n'est pas complètement celle qu'on peut trouver dans le texte, mais il y a effectivement une rupture. Et cette rupture, je pense que c'est précisément ce qui va intéresser Kant. De ce point de vue-là, entre la genèse sociale des critères de distinction morale et l'opérativité du spectateur comme tribunal intérieur à la conscience, il y a un saut.
Donc intériorisation. Qui n'est
pas véritablement justifié.
Intériorisation de, ouais. d'un sens
qui peut
du
être
devoir.
Effectivement une forme de conscience collective, mais là pour le coup on est vraiment dans l'interprétation, me semble-t-il.
Alors je voudrais vous poser juste pour, nous avons pratiquement plus de temps, juste si vous pouviez répondre assez vite, parce que je suis désolée, on a passé du temps sur Smith et ça valait la peine. Il y aura des gens comme Reed qui seront bien plus rationalistes, diriez-vous, que Smith, qui établiront de véritables principes, je dirais plus rationnels que ce spectateur intérieur de Smith fait d'imagination, de sentiments, un peu de raison, etc.
Bon, alors, ce qui est clair et ce qui est un acquis pour Hume comme pour les autres, c'est cette idée que la raison comme faculté de raisonnement ne peut pas contrôler nos passions. Et donc ça, sur ce point-là, Reed ne revient pas sur ce point. En revanche, En revanche, cette idée que il faut quand même distinguer entre des principes d'action animaux, comme il le dit, et des principes d'action rationnels, cette idée que l'on peut agir par devoir et pas simplement par intérêt, ça. Reed, effectivement, le maintiendra.
Is it wicked not to care when they say that you're mistaken, thinking hopes is not of dreams that aren't there? Is it wicked not to care when you've wasted many hours talking endlessly to anyone that's there? Truth awaits me, but still I hesitate because of fear. Skipping tickets, making rhymes, is that all that you believe in? Wearing rags to make you pretty by design. Rusting
Is it wicked not to care? Est-il mal? Est-ce méchant de ne pas se faire du souci pour les autres? C'est la chanson de Belle and Sebastian, qui est un groupe écossais originaire de Glasgow, et cette chanson date de 1998. Merci beaucoup Claire Etchegaray et Claude Gauthier. Les références de vos travaux sont sur notre site. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms, dont la série cette semaine a pour thème le défi de l'intelligence. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi l'intelligence doit-elle être partagée ? Lorsque nous employons l'expression d'intelligence artificielle, nous sentons bien qu'il y a là quelque chose de très précis, de très légitime, qu'il y a vraiment quelque chose qui relève de l'intelligence dans certaines machines artificielles et qui produisent des résultats très importants pour les humains et même une révolution pour l'espèce humaine. Mais nous sentons bien aussi qu'il y a quelque chose de frustrant et d'insuffisant, qu'il y a quelque chose de plus dans la notion d'intelligence que ce qu'il y a de pourtant très important et très légitime dans le sens qu'elle prend dans l'expression même d'intelligence artificielle. Dans la notion d'intelligence artificielle, nous retrouvons en effet la capacité de faire des relations entre des données du savoir pour produire quelque chose de nouveau et d'utile pour notre expérience. Ainsi, les machines font en effet ce que fait l'esprit humain. L'esprit humain qui combine des données pour produire quelque chose de nouveau, et nous le voyons quand nous disons que quelqu'un est intelligent. Nous savons que quelque chose qui survient, il le relie aussitôt à quelque chose d'autre et il en fait quelque chose de très malin. Nous disons qu'il est intuitif ou intelligent et nous confondons ces deux notions. L'intelligence, c'est plutôt la capacité de combiner en vertu de principes mathématiques et universels, scientifiques, pour produire quelque chose de pratique, quelque chose d'utile ou de dangereux d'ailleurs, mais quelque chose qui sert à l'action humaine. Cette notion d'intelligence artificielle est donc une restriction. Elle procède sur du calcul et elle produit des résultats aujourd'hui démultipliés par la puissance des machines. Et donc, en effet, l'intelligence artificielle est vraiment une intelligence, elle produit du nouveau, mais en un sens bien précis, articulé sur des outils, et pour produire des résultats, elle nous reconduit dans cette expérience de l'être vivant humain qui prolonge les fonctions de sa vie par la technique, pour le meilleur et pour le pire. Mais dans la notion philosophique et même de tous les jours de l'intelligence humaine, il y a deux autres choses que nous devons retrouver. D'abord, derrière le calcul, qui fait que l'association n'est pas aléatoire, il y a une capacité à atteindre l'universel. Oui, l'intelligence porte pour nous, êtres humains, la notion d'intellect, d'intellectualité, d'universalité. Et donc, d'une certaine façon, oui, désolé, il faut le dire, l'intelligence artificielle a besoin des intellectuels, elle a besoin de s'adosser à des fondements universels dans la science et à des principes universels dans l'action. La critique des intellectuels à la fin du 19e siècle, qui se basait sur la biologisation de l'intelligence, bute sur la résistance de ces principes intellectuels dans l'intelligence elle-même. Mais d'un autre côté, il faut compléter l'intelligence aussi par ses facultés individuelles, intuitives de comprendre ce que Blaise Pascal appelait l'esprit de finesse, qui vient compléter l'esprit de géométrie. Être intelligent, c'est aussi comprendre les situations, comprendre autrui, comprendre ce qu'il a de nouveau et d'irréductible et de concrètement différent. Ainsi, les machines de l'intelligence artificielles doivent-elles être complétées à la fois par l'intelligence individuelle ? Nous n'instruirons par exemple dans l'éducation primaire, secondaire ou supérieure que par l'exercice concret de l'intelligence, les pratiques orales par exemple, qui viendront compléter la production de l'écrit, la rencontre individuelle, mais aussi par le maintien des principes universels de la logique, de la philosophie et du droit. En réalité, l'intelligence artificielle est vraiment intelligence, quoique artificielle, mais elle nous ouvre aussi aux autres dimensions de l'esprit, celle de l'intellectualité fondamentale qui nous relie tous et celle de nos rencontres individuelles par lesquelles aussi nous devons compléter et partager l'intelligence artificielle. Ainsi, l'intelligence artificielle doit être partagée par tous les humains dans toutes les dimensions de leurs relations.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être écoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Grégory Wallon. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Nassim El Kabli, Corinne Amar, Victoire Mellet. Vous êtes sur France Culture. Vive la curiosité.